Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question de Louis Veuillot. C'est l'anniversaire de sa mort. Il est mort à Paris le 7 avril 1883. Et il était né dans le Loiret, disons, le 11 octobre 1813. Il est donc mort à 69 ans. Après une vie extrêmement courageuse, faut bien l'admettre, malgré toutes les critiques que certains font à son égard, c'était un pamphlétaire catholique, un homme d'un immense courage, un converti d'ailleurs, et c'est une vie extrêmement intéressante. J'étais passionné de relire après tant d'années l'ouvrage qu'a écrit son neveu François Veuillot, le livre intitulé simplement Louis Veuillot est publié il y a très très longtemps chez Alsacia. Oh, c'est presque jauni ce livre avec des bonnes illustrations. J'ai été ravi de relire ça. C'est intéressant, c'est comme un roman. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai dit que Louis Veuillot est né dans le Loiret. C'est en fait à Boisne, dans le Gâtinais. Et son père s'appelait François Veuillot. Il est né, je vous le rappelle, en 1813. Et son père était tonnelier, fabricant de tonneaux, quoi. Sa mère, demoiselle Adam, Marguerite Marianne Adam, était la fille d'un charron. Oui, d'un charron, quelqu'un qui fait des voitures, quoi. Et puis, ils ont eu un revers de fortune, parce que le patron de son père a fait faillite. Ça a obligé le pauvre tonnelier François Veuillot à chercher ailleurs du travail. Alors, il est venu dans la banlieue de Paris. À l'époque, c'était la banlieue de Paris, Bercy. Bercy, au sud-est de Paris, bien, ça n'était annexé à Paris en 1860. Dans ce temps-là, c'était un village, quoi. Alors, son père a pratiqué son métier là, et Louis Veuillot, le jeune Louis Veuillot, est demeuré chez son grand-père Adam, Jacques Adam. Il a fréquenté l'école du village. Il avait une dizaine d'années quand ses parents l'ont repris à la maison et l'ont envoyé, justement, à l'école de Bercy. Il a appris peu de choses, paraît-il, puis au printemps de 1827, donc à 13 ans, on l'a fait entrer comme petit clerc dans une étude d'avocat. Puis dans cette étude, on se piquait de littérature. Ça commence, il s'intéresse déjà à la littérature à cause des aînés qu'il y a là. Il y rencontre des jeunes gens de bonne famille bourgeoise, lui qui vient d'un milieu très ouvrier, d'artisans, ouvriers. Ils sont plus âgés que lui, plus instruits. Ils se moquent un peu de lui au début, mais ils le prennent en affection parce qu'il est intelligent. Alors, ils refont son éducation, ou plutôt ils la font son éducation, puisqu'il n'a pour ainsi dire rien reçu. Et quelques années plus tard, en 1831, il a 18 ans, un de ces jeunes gens s'appelle Gustave Olivier. A eu une espèce d'emprise sur lui. Ils se sont très intimement liés, sont devenus vraiment de grands amis. Et il lui demande de devenir son adjoint comme rédacteur dans un journal qui s'appelle L'Écho de la Seine inférieure. C'est plein de journaux en France à cette époque. Des centaines de journaux avec toutes sortes de noms locaux, un peu comme on a des petits journaux de quartier. Et Louis Veuillot vient donc à Rouen pour travailler à l'Écho de la Seine inférieure, et puis il y travaille beaucoup. Il est un peu violent, un peu fier. Il a deux duels. Oui, le duel se pratique à l'époque. Et puis, il se fait si bien remarquer qu'au bout de quelques mois, on l'envoie à Périgueux comme rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Le Mémorial de la Dordogne. Il y demeure 5 ans. Et puis, à l'âge de 23 ans, à l'instigation de son fidèle ami Olivier, là, il est appelé à Paris. Bon, arrivé à Paris, il collabore à divers journaux. On voit la montée petit à petit de ce garçon qui vient d'un milieu très, très, très simple. Alors, il s'ennuie à Paris. Toute cette espèce de cuisine politique que font ses patrons dans le journal, à laquelle ils mettent la main, là, ça le dégoûte, ça. C'est une espèce de journal où on défend les principes d'ordre. Ça l'oblige à défendre des choses qui ne lui vont qu'à moitié. Sans doute, il aime l'ordre, c'est d'accord, mais il comprend, ou plutôt il sent que l'ordre matériel, voilà, le seul que connaissent ces bourgeois, là, de 1830, qui sont inspirés de Voltaire, c'est un ordre précaire, ça, c'est incomplet, c'est même dangereux, à son avis. Bon, il s'y attache faute de mieux, mais il cherche instinctivement quelque chose de plus solide et de plus logique. Hein. Il n'est pas catholique. Hein. D'ailleurs, cet ordre, à la mode bourgeoise, ne tient réellement aucun compte du peuple. Ces bourgeois-là, ils ignorent de parti pris les aspirations du peuple, ses besoins. Puis, ils font bon marché des souffrances du peuple. C'est un ordre, au fond, qui n'assure que tout juste le moyen de ne pas périr de misère à toute une masse de gens. Et ça fâche Louis Veillousse. Parce que de par ses origines, par les fibres les plus secrètes, on pourrait dire, de son cœur, Louis Veillot, quoi, il est du peuple. C'est un homme qui vient de là et il ne changera jamais. Il aura toujours des manières un peu violentes, un peu fortes. Et c'est pas une mauvaise chose pour un journaliste, pour en faire un journaliste courageux. Et il y a une intelligence plus vive que bien d'autres. Il y a des amitiés puissantes. Et tout ça, ça l'élève au-dessus de sa classe, mais il sait bien que son père et sa mère, puis son frère Eugène, puis ses deux sœurs qui s'appellent Annette et Élise, et qui sont restées parmi le petit peuple, il sait bien combien ils sont merveilleux, puis il les aime ardemment. Hein. Il se demande, avec une sourde angoisse, s'il n'a pas trahi leur cause en devenant un peu bourgeois. Et d'autre part, son âme foncièrement nette, a soif de pureté, et bien qu'il ne mène pas une vie de débauche, il réalise pas vraiment l'idéal auquel il aspire. Il se rend compte de ça. Puis il sait pas comment l'atteindre, son idéal. Enfin, le sens et le but de la vie lui échappent. Il ne sait d'où vient, ni d'où il vient. On ne lui a pas vraiment enseigné. Ni où il va. Et c'est le drame de toute une jeunesse aujourd'hui. Il est plongé dans ce drame. Il ne sait d'où il vient, ni où il va. Et personne autour de lui n'a été capable de le lui dire. Et comme il roule au fond de son cœur ces pensées-là, son ami Gustave Olivier lui se convertit. Et cette conversion l'étonne. Il lui semble, comme à tous les gens de son entourage, absolument invraisemblable qu'un homme intelligent comme Gustave Olivier, qui est instruit, bien posé dans le monde, affiche des convictions religieuses et pratique sincèrement et ouvertement la religion catholique. Pour lui, il respectait la religion et les prêtres, puisque tout le monde en fait était en principe catholique, mais il s'en tenait là. Mais cependant, Gustave Olivier lui propose de l'accompagner dans un voyage qu'il entreprend en Italie et même en Orient. Eh bien, au Moyen-Orient. Pas au Proche-Orient. Pas dans l'Orient des Chinois, là. Louis Veillot s'ennuie à Paris, il accepte. Il va dire plus tard, je croyais aller à Constantinople. J'allais plus loin. J'allais à Rome. J'allais au baptême. Il se convertit donc à son tour. Je vous lirai le récit de sa conversion, c'est très beau. J'ai ça dans ma bibliothèque, dans un très beau livre, dans une reliure magnifique de l'époque, du siècle dernier, là, Rome et Lorette. Alors, c'est passionnant à lire, vous savez, c'est un autre monde. C'était un grand écrivain que Louis Veillot même. Il était accepté comme même parmi les grands écrivains de son temps. Donc, il se convertit. Puis avec une sincérité puis une générosité qui force d'ailleurs l'admiration, hein, il décide de vivre pleinement catholique. Et d'abord, pour affirmer sa conversion et organiser ses plans d'avenir, il s'en va faire une retraite chez les jésuites de Fribourg. Et rentré à Paris dans la première quinzaine d'août 1838, il est nommé sous-chef à 24 ans au ministère de l'Intérieur, qui est attaché au cabinet du ministre. Il ne cesse pas de monter, comme vous voyez. Mais il va rejeter tous les honneurs, toutes les gloires. C'est pas son genre. Alors, la besogne administrative, c'est pas son fait, justement. Il publie, l'année suivante, en 1839, son premier livre, qui s'appelle « Les pèlerinages en Suisse », qui était très populaire, où il raconte ses pérégrinations, il décrit les paysages, il note des traits de mœurs des gens. Il ramasse des légendes, pardon, il fait de l'histoire et par-dessus tout, il proclame sa foi. Et le livre, bien qu'il soit édité chez un libraire débutant, et a pour auteur un jeune homme, quoi, presque inconnu, remporte un brillant succès. Ensuite, il publie Pierre Saint-Yves, S-A-I-N-T-I-V-E, Saint-Yves. C'est publié quelque temps après ça, puis il s'appelait un peu moins. Il a publié aussi le Saint-Rosaire médité, qui a eu un certain succès. C'est un peu pieux, à mon avis, mais il y a des belles choses là-dedans. Mais deux ans après, son fameux Rome et Lorette, dont j'ai un bel exemplaire, où Louis Veuillot donc raconte sa conversion au chapitre 15, intitulé « Dernier combat ». C'est un succès au moins égal à celui de ses pèlerinages en Suisse. Et entre-temps, on le charge de mission en Algérie, où le général Bugeaud, le fameux général Bugeaud, vient d'être nommé gouverneur général. Alors, il y passe une grande partie de l'année 1841, puis il en rapporte la matière d'un livre intéressant qui ne paraît qu'en 1845, quatre ans plus tard, « Les Français en Algérie ». Cependant, le fait d'être dans l'administration comme ça, ça lui pèse, même si on essaie de lui rendre ça assez agréable. C'est d'ailleurs un des traits saillants de son caractère. Il n'a jamais pu supporter aucune autre chaîne que celle, comme il dit, de la morale chrétienne et de la volonté de Dieu. Au fond, il demeure si attaché depuis sa conversion à l'Église et à Dieu que le reste en vient presque à l'ennuyer. Et la morale chrétienne qui s'incarne, pas une morale chrétienne enfermée dans une sacristie, non, c'est une morale chrétienne qui s'engage auprès des pauvres, auprès de la société, auprès des gouvernements, auprès de tout. Aussi, il refuse toujours, et parfois avec une certaine vivacité, je vous ai dit qu'il y a un caractère un peu difficile des fois, mais il refuse les places, les honneurs. Il n'accepte ni la croix d'honneur qui lui est offerte à plusieurs reprises. On lui a offert ça sous la monarchie de Juillet, puis sous l'Empire. Il n'accepte même pas d'être député. Il est sollicité de divers côtés. Puis assez souvent, on lui offre même un siège à l'Académie française. Il refuse. Il refuse les distinctions honorifiques que le pape Pie IX aurait été si heureux de lui accorder. Il veut bien rendre tous les services possibles et avec un dévouement sans borne, mais il veut faire tout cela en toute indépendance. Et d'autre part, son humilité, qui est très sincère et très profonde, elle répugne aux marques publiques d'estime et de gloire. Et peu après son retour d'Algérie, il donne sa démission de sous-chef au ministère de l'Intérieur, puis se consacre au journalisme catholique, et à vrai dire, c'est lui le fondateur du journalisme catholique. Il le fonde. Il a un tel tempérament. Et à vrai dire, les quelques feuilles religieuses de ce temps-là ne sont pas tellement lues. Et puis, elles ne sont pas tellement catholiques non plus. Il entre dans celle qui lui paraît refléter le mieux ses opinions et qui s'appelle l'Univers. Retenez bien ça, l'Univers a été fondé au mois de novembre 1833 pour donner un journal, un organe au parti ultramontain, au parti qui respecte Rome au détriment du roi et du chef de l'État français qui avait trop d'autorité sur l'Église. Alors il végète ce journal quand Louis Veuillot commence d'écrire au lendemain de sa conversion. Il y entre définitivement en 1839. Il en devient rédacteur en chef 2 ans plus tard, à 27 ans. Et à ce moment-là, les choses changent de face et rapidement, l'Univers se fait une place parmi les grands journaux de Paris. Il acquiert une autorité incontestable qui va toujours grandissant jusque vers 1880, soit pendant 40 ans, et cela grâce surtout à l'habilité professionnelle puis au génie de son rédacteur en chef, Louis Veuillot. Et nous verrons la suite tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que Louis Veuillot avait un mauvais caractère. J'aurais dû plutôt dire qu'il était bouillant. C'était plus vraiment ce que je voulais dire. Alors, parce qu'on a beaucoup incriminé Louis Veuillot, journaliste, et on lui a d'abord reproché d'avoir souvent changé d'opinion, d'avoir été libéral, puis ensuite absolutiste, libéral dans le sens de l'époque, là. Puis absolutiste, et puis d'avoir accepté, puis combattu tous les gouvernements qui se sont succédés en France. Rien n'est plus vrai que ce reproche, puis rien n'est plus faux, hein. Quelqu'un qui l'a très bien connu et qui était un critique littéraire, un auteur dramatique, né comme Veuillot, dans le Loiret d'ailleurs, puis membre de l'Académie française, c'est Jules Lemaître, qui écrit « C'est être fort superficiel que d'accuser Louis Veuillot de versatilité, comme on l'a fait. Sa vie me semble au contraire admirable et presque surnaturelle d'unité. » C'est ce qui fait la grandeur de Louis Veuillot. Sa fidélité profonde, et il n'a jamais eu en vue, en effet, que le service de Dieu. Ce qu'il préoccupe, c'est le salut des âmes, le bonheur du peuple aussi. En somme, Dieu, les âmes, le peuple, trois choses, ou trois personnes, trois idées, qui se résument pour lui dans l'obéissance absolue non seulement aux ordres, mais au simple conseil du pape. Il est extrêmement fidèle au pape. Au milieu des factions de toute espèce, c'est ce qu'il déclare en 1842, « Je n'appartiens qu'à l'Église et à la patrie. » Et jusqu'au bout, il s'est tenu parole. Parmi les catholiques de France, les uns étaient légitimistes, les autres orléanistes, c'est par rapport au roi, ça. D'autres impérialistes, par rapport à Napoléon III. D'autres républicains, qui veulent ni roi ni empereur. Il refuse toujours d'arborer aucune de ses étiquettes politiques. Il dit « L'Église admet toutes les formes de gouvernement pourvu que ceux qui tiennent le pouvoir en usent pour le bien du peuple et selon les lois de Dieu. » Il a bien raison, me semble. Il ajoute « Je fais comme l'Église. Louis-Philippe règne, le roi Louis-Philippe règne. J'accepte Louis-Philippe, mais je combats ses actes dès que ses actes nuisent à la religion. » Et il se gênait pas, hein? Il avait un courage de feu. Il ajoute « Louis-Philippe est détrôné et la République proclamée. Je ne perdrai pas mon temps à regretter Louis-Philippe et à combattre la République. Je demanderai seulement au nouveau pouvoir de reconnaître et de respecter les droits de Dieu et de l'Église. Et tant qu'il le fera, il n'y aura pas de malheur, de meilleur républicain que moi. Dès qu'il changera sa conduite, je l'attaquerai, non pas en tant que République, mais en tant qu'ennemi de l'Église. Et pareillement, de l'Empire et pareillement de la Troisième République. Quand par hasard j'ai été d'un parti, je ne lui ai jamais appartenu. » On voit, il se maintient fidèle à ce qui fait un vrai journaliste. Cette indifférence complète au point de vue des institutions politiques, est-ce que c'est admissible? Évidemment, elle l'est pour l'Église et le pape, car il n'entre pas dans les attributions de l'Église et du pape d'imposer tel ou tel régime à telle ou telle nation. On l'a vu. Les papes ont reçu des dictateurs, des membres du Parti communiste de Moscou, autant que des grands démocrates, même des saints. Ils reçoivent tout le monde et essaient de les influencer dans le sens du bien. Alors, est-ce que les catholiques de chaque pays, qui en même temps que catholiques sont des citoyens, et donc obligés de s'intéresser à la bonne marche des affaires publiques, est-ce qu'ils peuvent faire comme l'Église et le pape? La politique n'est-elle pas une science dont les conclusions s'imposent, n'est-ce pas, à l'égal de toute autre vérité démontrée, comme dit Louis Veuillot? Ben, Louis Veuillot semble l'avoir compris à la fin de sa carrière journalistique, quand il écrivait qu'il se devait d'endosser la monarchie. Et il fait ça sur ses vieux jours. Dans un dictionnaire des connaissances religieuses, Léon Jules écrit « Tous les partis politiques se sont acharnés tour à tour contre Louis Veuillot. Il répondit à tous avec une verve admirable, mais il les a fait taire. Il infligea aussi de rudes et cinglantes répliques aux ennemis de l'Église et du pape, à quelque monde qu'ils appartiennent, l'université, le parlement, la presse, la littérature, le gouvernement, voire même le clergé. » Alors, on peut imaginer que toutes ces luttes, les succès aussi qui ont rempli la carrière de journaliste de Louis Veuillot, Ça suscite l'envie des uns puis la rancune des autres. On lui a pas pardonné d'avoir une plume très alerte, puis de s'en servir si bien surtout. On lui a reproché, mais c'est le second grand reproche dont certains accablent la mémoire de Louis Veuillot, c'est de troubler la paix, d'ignorer la prudence et la modération, d'oublier même la charité. On l'a même accusé d'user de termes grossiers, orduriers, cyniques, de lancer de basses injures et de tenir des propos calomnieux. Mais comme dit Jules Lemay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces accusations font rire franchement quand on entend ceux qui les font. Traiter Louis Veuillot de crocheteur ivre, on a des insultes étranges à cette époque, un crocheteur ivre. On l'a traité, Louis Veuillot, de cagot, de scapin. Connaissez les fourberies de Scapin, de Vésuve de foire, c'est-à-dire d'un petit volcan qui s'éteint en peu de temps, et d'autres très gentilles épithètes, dit Jules Lemaître. Quel étrange vocabulaire on a à cette époque. La vérité, c'est que Louis Veuillot a dans la perfection le style d'un journaliste, alerte, plein de verve. Il est brillant, il est coloré, puis aussi il est clair, il est entraînant. Il faut le lire, c'est absolument passionnant. Mais il faut se mettre dans la peau des gens de cette époque. C'est un autre monde. Il saisit à merveille les défauts de ses adversaires. Puis il les fait ressortir avec une logique endiablée. Il voit le ridicule des autres. Il montre ça malicieusement. Il faut pas l'avoir comme ennemi. Il a beau être très catholique, être à la messe tous les jours. C'est un homme d'un tempérament assez fougueux. Mais c'est le journalisme, cela, et ceux qui ne peuvent le comprendre ou l'admettre se condamnent à n'écrire que des articles que personne ne lira à cette époque. C'est comme ça dans ce temps-là. Tout ce qu'on peut et qu'on doit demander aux journalistes chrétiens, c'est que quand ils s'attaquent aux mauvais écrivains, aux politiques médiocres ou sectaires, ou à des penseurs dont la pensée est plus ou moins dévoyée, comme on dit. Mais il faut que le journaliste chrétien n'oublie jamais la justice qu'il doit à l'homme public. Puis la charité aussi qu'il doit à l'homme privé. Or, ce reproche, Louis Veuillot ne l'a jamais mérité. Il n'a jamais enfreint ces limites-là. C'est Jules Lemaître, encore, qui dit « Ce fut un railleur et un peintre redoutable ». Mais d'abord, beaucoup de ses portraits sont anonymes, et dans les autres cas, lorsqu'il empoigne ou se met à déshabiller, à tenailler, à désarticuler, à démantibuler un homme, jamais, je le répète, dit Jules Lemaître, il ne se sert contre ses victimes d'autre chose que de leurs paroles et de leurs actes publics, d'autre chose que ce qui le blesse et l'outrage, lui, dans sa foi. Ses haines les plus féroces ne sont que l'envers de l'amour. Et ses colères sont celles de la charité. Ses colères sont celles de la charité. Je ne déteste pas cette expression de Jules Lemaître. Il a bien raison. Parce qu'au fond, quand le Christ fait sa colère dans le temple, c'est une colère de charité, quoi. Quand il accuse les pharisiens des sépulcres blanchis, c'est une colère de charité. Alors il faut ajouter que ce, comme on l'appelait, le prince des journalistes, Louis Veuillot, a aussi été le plus désintéressé des hommes quand il a abandonné son gagne-pain administratif pour se consacrer à la rédaction d'un journal sans ressources assurées. Je vous l'ai raconté tout à l'heure. Il a déclaré « Dieu m'a donné un glaive, je ne le laisserai pas rouiller et advienne que pourra. C'est la chose dont je n'ai pas à m'occuper. Dieu m'ayant donné d'autres soins, celui-là le regarde. » Mais Dieu n'a pas trompé dans son attente ce cher Louis Veuillot, puisque d'un côté, le journal a acquis rapidement une prospérité remarquable et que de l'autre, ben, les livres que Louis Veuillot a publiés ont presque tous eu un immense succès. Et l'un de ceux qui a eu le plus grand succès, c'était Les Odeurs de Paris, publié en 1866. C'était un succès de librairie et d'opinion fantastique. Le 16 avril 1867, l'année suivante, l'Empire était devenu plus libéral, autorisé Louis Veuillot à reprendre sa plume de journaliste parce qu'on la lui avait enlevée. Alors, l'univers est ressuscité 7 ans après avoir été fermé par le gouvernement impérial. Et puis, juste à temps là, pour mener le combat en faveur du Concile du Vatican et de l'infaillibilité pontificale. C'est un homme qui s'est acharné à défendre l'infaillibilité du pape. Puis c'est la guerre, le siège de Paris, la Commune, et Louis Veuillot joue fièrement, hardiment, son rôle de journaliste catholique. Et ses articles d'alors, réunis dans Paris pendant les deux sièges, en 1871, s'élèvent à une hauteur que, dit-on, seul Bossuet a égalée dans son histoire universelle. C'est un immense compliment. Et en 1872, Louis Veuillot publie « Rome pendant le Concile », qui fait un digne pendant à l'ouvrage précédent, là. Puis peu à peu, il a écrit bien d'autres livres, je vous en fais grâce, sa verve s'éteint, puis en 1873, il ressent les premiers symptômes du mal qui vont l'achever, puis il lutte pendant 5 ou 6 ans, puis c'est le grand silence, il meurt le 7 avril 1883, salué d'éloges enthousiastes par tous les confrères de la presse, même ceux qu'il a le plus combattu. Il est regretté, pleuré amèrement par tous les catholiques, qu'il a tant de fois conduit à la victoire et toujours si bien défendu, puis il est béni par le pape Léon XIII, qui déplore la disparition du plus vaillant champion de l'Église. Tout ça s'est déroulé il y a 114 ans aujourd'hui. À tout à l'heure. Rencontre spirituelle, une émission de Radio Ville-Marie, diffusée tous les jours en direct à 10h et reprise le soir à 23h. Nous en sommes à près de la 450e. Là. Et aujourd'hui, il est question de Louis Veuillot, le grand journaliste du siècle dernier, grand journaliste catholique, combatif, courageux, intègre, absolument intègre. J'aimerais ajouter, avant de terminer sa vie et puis de vous raconter sa conversion, telle qu'il la raconte lui-même, que ce polémiste génial qu'a été Louis Veuillot, que certains ont représenté comme un homme autoritaire, vindicatif, orgueilleux, terrible, était au contraire un père très aimant à l'égard de ses enfants. Un ami qui était fidèle et très tendre à l'égard de tous ceux qui étaient ses amis, et qu'il était d'une douceur et d'une prévenance dans l'intimité, qui ravit même les simples passants. C'était un homme généreux et délicat. C'était un poète aussi, puis un homme plein de fantaisie. Il faut lire ses lettres publiées après sa mort. Certains ont dit qu'elles égalaient, pour le moins et à plusieurs égards, les lettres de la célèbre marquise de Sévigné, et même celles de ce grand écrivain de lettres qui était Voltaire. C'est là que Louis Veuillot se montre dans son plein jour, qu'il déploie, comme on dit, une grâce irrésistible. Jules Lemaître dit d'ailleurs, somme toute, je n'hésite pas un moment à le compter dans la demi-douzaine des grands prosateurs du siècle. Quant à Léon Jules, lui, déclarait vers 1920, « J'ajoute pour mon compte personnel et au risque de scandaliser les sacristains de Chapelle et les mandarins de Cénacle, que je n'en connais pas, dans aucun temps ni dans aucune littérature, qui me plaise davantage. » Après la retraite de Louis Veuillot, de journal Univers, avant sa mort, la direction de l'Univers a été assumée par son frère Eugène Veuillot, qui est mort en 1905. Eugène Veuillot n'avait peut-être pas le talent de polémiste de son frère, ni les qualités de style, ni l'envergure d'esprit, ni même le génie de son frère, mais c'était un journaliste de grande école, comme on dit, un écrivain de valeur, qu'on aurait beaucoup plus apprécié s'il n'avait pas été placé dans les circonstances trop près de Louis Veuillot. Et puis quand Léon XIII a demandé que les catholiques se rallient à la République, dans l'affaire qu'on appelle du ralliement, ça a créé en 1893 une scission dans la rédaction de l'Univers. Et puis, il y en a qui se sont séparés pour fonder un autre journal. Quand ils sont revenus à l'univers, bien, tout ça avait jeté un coup fatal, et puis finalement, l'univers est disparu. Ce journal est disparu. Je vous disais que Louis Veuillot était un homme de grande bonté. Mais savez-vous que sa femme est morte quand elle n'avait que 29 ans? Elle lui avait donné 6 filles. Et tout à coup sur coup, 4 de ses filles meurent jeunes. Elles étaient toutes jeunes. Pas des bébés, toutes jeunes. Il raconte ça, c'est tellement bouleversant. C'est à la page 130 de cet ouvrage Louis Veuillot par François Veuillot. Je lis ce qui est écrit ici. Si vous aviez vu quel sourire une minute avant d'expirer, quel regard, quel bras tendu vers le ciel. Enfin, mon ami, on ne peut souffrir davantage, mais on ne peut se sentir plus manifestement dans la plénitude du pardon et de la force. Et moi aussi, quoique je ne le dise pas comme ceux qui me consolent, je dis que Dieu m'aime. Je dis que Dieu m'aime. Je trouve ça tellement beau de la part d'un homme qui vit en cette période où on ne pense pas tellement beaucoup comme ça. On dit que Dieu est juste, que Dieu est ci, que Dieu est ça. Non, que Dieu m'aime. C'est magnifique. Je vous ai dit que je vous raconterai sa conversion telle qu'il l'a écrite dans Rome et Lorette. Alors voilà, on va apprendre à connaître Louis Veuillot dans le texte. C'est, je vous le rappelle, le 15e chapitre. Nous étions aux approches de Pâques. Afin de solenniser comme il convient à des enfants de Dieu et de l'Église catholique cette fête si glorieuse, mes amis s'efforçaient de redoubler de piété et redoubler en effet de vigilance pour eux et de prière pour moi. Parce qu'il n'est pas catholique, lui. Les autres le sont. Ben, il est catholique de naissance, mais il n'y adhère guère. Il ajoute, un motif religieux dirigeait toutes leurs visites dans Rome, où je les accompagnais toujours. La foi et l'amour de Dieu inspiraient leurs conversations. Ils restaient plus longtemps prosternés devant les autels. Et moi, j'étais plus troublé, plus pressé que jamais, et plus que jamais irrésolu. J'attendais toujours ces lettres qui n'arrivaient pas de Paris. Je pensais que des catastrophes avaient éclaté depuis mon départ, et que, par là, peut-être, Dieu commençait à me punir. Ou simplement, qu'oublié de ceux dont je me croyais aimé, j'allais faire encore une fois l'épreuve, si souvent faite du mensonge de toutes les affections. Alors on voit, il se promène à Rome, visite les églises. J'enviais le bonheur de mes amis chrétiens qui s'aimaient entre eux d'une amitié sainte et durable. C'est très important ça. J'enviais le bonheur de mes amis chrétiens qui s'aimaient entre eux d'une amitié sainte et durable, qui aimaient toujours Dieu par-dessus toutes choses et qui vivaient continuellement dans la certitude de son amour. Vous savez, quand on nous dit, les gens ne connaissaient pas l'amour de Dieu avant 1965, quand le Concile Vatican II nous enseignait ça. Mais c'est faux, vous voyez bien que c'est faux. Hein? Un jour de dimanche, l'un d'eux proposa de sanctifier la soirée par une lecture pieuse. Tout le monde en fut d'accord et moi-même. J'y consentis bien volontiers. Adolphe avait apporté de Paris quelques volumes contenant le carême de Bourdaloue. Des bonnes lectures, comme on voit. Il lut le titre de plusieurs sermons. L'un aimait mieux celui-ci, l'autre celui-là. On convint de s'arrêter au choix indiqué par l'époque où nous étions. Nous entrions dans la Semaine Sainte. Quoique je ne sois rien moins qu'habile dans l'art excellent de la lecture à haute voix, moitié par vanité, moitié par désir de plaire à mes amis, je m'étais offert comme lecteur. Adolphe me présenta donc le livre, ouvert au sermon, pour le lundi de la Semaine Sainte. Le titre, sur le retardement de la pénitence. Je ne fis pas d'abord attention à ce titre qui surprit mes compagnons, ainsi qu'ils me l'avouèrent plus tard, et qui les rendit attentifs comme à un avis solennel que le Seigneur allait me donner en leur présence. Je ne songeais véritablement qu'à lire de mon mieux. À ces chrétiens, je voulais lire de mon mieux un discours que je croyais de nature à les intéresser plus que moi. Je ne connaissais rien de Bourdaloue. J'appris vite à le connaître. Je me trouvais aux prises avec ce rude adversaire, Sur le dernier terrain où je m'étais réfugié, chaque mot que je lisais frappait d'aplomb sur mon esprit, broyait mes prétextes, déjouait mes ruses, me convainquait de ma déraison, proclamait ma folie. Ou plutôt, je ne lisais pas. J'écoutais, avec une sorte d'effroi et de stupeur, une voix qui ne me semblait plus être la mienne et qui me révélant en présence de mes amis toutes mes pensées misérables, me couvrait de honte et de confusion. Je tremblais, je balbutiais, je me sentais rougir, mon front s'humectait de sueur. Tantôt je voulais jeter le livre et me retirer. Tantôt je voulais m'interrompre pour m'écrier que j'étais vaincu et que je prenais l'engagement de ne plus résister à des raisons dont la force me laissait sans excuse. Tantôt je sentais les larmes me gagner et je continuais, à travers l'orage de ces sentiments divers, ce sermon. Cet avertissement à la fois paternel et terrible, où les menaces de la mort éclataient à côté des plus douces assurances de salut, si je voulais me sauver, et qui me faisait si bien sentir qu'en effet, dans la position où Dieu m'avait mis, j'avais moi-même entre mes propres mains et le don de ma grâce et la sentence de ma condamnation. Tout ce qui m'avait été dit, tout ce que je me disais moi-même et tout ce que je craignais de m'avouer, Bourdaloue me le répétait à haute voix, avec l'autorité souveraine de l'Écriture sainte, des pères, de son propre génie, avec des paroles qui pénétraient comme des glaives ardents jusqu'au fond de ma conscience. Et là, il cite Bourdaloue. « Je viens aujourd'hui vous dire ce que l'ange a dit à Saint-Pierre dans la prison. » « Levez-vous et ne tardez pas. » Je sais quelle illusion vous séduit et par quel prétexte la passion vous trompe et vous joue. Pour calmer les remords intérieurs de votre âme, vous ne renoncez pas entièrement à la pénitence, mais vous la différez. Vous ne dites pas « Je ne me convertirai jamais. » Ce désespoir fait horreur, mais vous dites « Je ne me convertirai pas encore si tôt. » Et moi, dit Bourdaloue toujours, « Je veux vous faire voir les suites malheureuses à ce retardement et l'affreux danger où il vous expose. » Il n'y a rien de certain, mes frères, dans le futur, que son incertitude même. Il n'y a rien de certain, sinon que nous y serons surpris, car le Sauveur du monde nous l'a dit en termes formels. Nul ne sait l'heure. Après une parole si positive, mais si terrible, ajouterai-je encore au désordre de mon péché les désordres de la plus insensée témérité, remettant toujours ma conversion, demandant toujours trêve jusqu'au jour suivant? Nous le connaissons, chrétiens, ce temps de la visite de notre Dieu, dit Bourdaloue. Ce jour qui nous est accordé, nous le connaissons, et peut-être, à l'instant que je vous parle, Dieu vous dit-il, « Voici, pécheur, votre jour. Voici le temps que j'ai destiné pour vous. C'est aujourd'hui qu'il faut quitter cette vie libertine, car je ne veux plus de retardement. » Alors Louis Veuillot écrit, « C'était là de ces paroles qui me faisaient pleurer, car je sentais vivre en moi-même le miracle qu'elle m'annonçait. Mais bientôt, j'étais saisi d'épouvante en écoutant ces menaces. » Alors là, il y a quelques menaces, hein. Bourdaloue déclare en effet, « Qui sait si Dieu, se tournant contre nous, après que nous aurons méprisé la grâce, ne nous dira point alors comme à ces Juifs dont il est parlé au premier chapitre d'Isaïe, « Retirez-vous et ne paraissez point devant mes autels pour me faire une offrande indigne de moi. Je ne vous connais plus et vos sacrifices me sont à charge. Comme roi des siècles et monarque éternel, c'est toujours le texte d'Isaïe, hein, dans 5 siècles avant Jésus-Christ, hein. Comme roi des siècles et monarque éternel, je voulais les prémices de vos années, je voulais ces années de prospérité qui furent pour vous des années de dissolution. Je voulais ces années de santé que vous avez consumées dans le repos oisif d'une vie molle et paresseuse. Je voulais cette jeunesse dont vous avez fait le scandale de tant d'âmes. Je voulais cet âge mûr qui s'est passé dans les intrigues de votre ambition démesurée. C'est beau, la Bible, quand on y pense. Vous avez sacrifié tout cela au monde et vous l'avez fait dans l'assurance que ce serait assez de m'en offrir quelques débris. Et moi, je vous dis que ces oblations me sont odieuses et qu'il est de ma gloire de les réprouver. Ainsi parlait le Seigneur, et ainsi se comporte-t-il tous les jours à l'égard de certains pécheurs après les délais criminels qu'ils ont apportés à leur conversion. Et ici se termine la lecture. Alors, Louis Veuillot ajoute, « Mes amis eurent pitié de moi. » Prétextant la fatigue d'une si longue lecture, ils m'interrompirent à la fin de la seconde partie, et de fait, véritablement, je n'en pouvais plus. Mais bien avant, dans la nuit, la voix de Bourdaloue retentit à mon oreille, et le lendemain encore, je l'entendais comme un tonnerre menaçant. Ce jour-là, si je ne me trompe, qui était le lundi de la semaine sainte, ou le mardi, nous allâmes entendre la messe à Saint-Pierre. Je n'entrais jamais sans émotion dans ce temple sublime, et comme un vrai catholique de Rome, j'y faisais de bon cœur acte dévotion. Je ne manquais pas de baiser le pied de cette statue du prince des apôtres, dont le bronze, en cette partie, s'est usé et a pris une autre couleur au contact des lèvres fidèles qui viennent s'y poser. Vous savez que c'est vrai, ça, hein? C'est usé, le pied de la statue de Saint-Pierre qui est en bronze. Il ajoute « Quels cœurs malheureux ont donc les premiers conçu un triste plaisir à contester le sentiment si naturel qui nous porte à honorer les reliques des saints et à les invoquer devant leurs images. J'étais certes libre de préjugés, je n'étais pas chrétien encore, je refusais encore à Dieu ce qu'il me demandait essentiellement, et déjà pourtant j'aimais les saints. Mon cœur et ma raison me montraient en eux des médiateurs qu'il m'était doux et consolant d'appeler à mon secours. » Alors après la messe, nous sommes allés nous agenouiller devant la balustrade qui entoure près du maître-autel le tombeau des apôtres. On est toujours à Saint-Pierre de Rome. C'était notre usage toutes les fois que nous visitions Saint-Pierre. Et même, je puis bien l'avouer, j'avais souvent trouvé que mes amis y passaient un peu trop de temps. Il n'en fut pas de même ce jour-là, appuyant mon front sur mes mains jointes. J'osais enfin devant Dieu contempler franchement mon âme bouleversée depuis un mois par tant de contradictions, chargée de tant d'inquiétudes, bourrelée de tant de remords, si honteuse de ses lâchetés, si effrayée de l'avenir qui l'attendait, si incertaine encore de ses résolutions. Jamais je n'avais vu si clairement mes misères. Je fus saisi de pitié, et ne pouvant plus m'en tenir, je pleurais sur moi-même à chaudes larmes, dans une angoisse et dans un déchaînement de douleur que je ne saurais exprimer. » Bon, ce récit écrit par Louis Veuillot lui-même, il pleure auprès du tombeau de Saint-Pierre, dans la basilique Saint-Pierre, en haut, là. Il écrit « Je pleurais d'avoir méconnu Dieu. Je pleurais de ne plus pouvoir l'offenser en sécurité. Prosterné à ses pieds, je lui demandais d'anéantir lui-même jusqu'au dernier vestige les indignes idoles pour lesquelles je l'avais trahi, et presque au même instant, aux folies et misères, je le suppliais de ne les point briser. Et comme si j'avais pleuré du sang, il me semblait qu'avec mes larmes s'en allait ma vie. À ce moment violent mais rapide, quoi qu'il m'eût suffi pour embrasser dans le pêle-mêle de leur défaite l'ensemble de mes désirs les plus contraires, succéda bientôt une sorte de calme qui amena de désolantes réflexions. Il me parut que j'étais toujours au même point. Mais quoi, pensais-je, Dieu n'est-il pas clément et plein de miséricorde? Il ne m'a pas condamné, car je veux me convertir aujourd'hui. Je ne lui demande qu'un peu de secours. Quel secours demandais-je? Un miracle sans doute. N'étant pas capable de comprendre encore celui qui s'opérait en moi, je m'adressai aux saints apôtres. « Pierre, Pierre, vous avez renié par trois fois votre maître. Paul, Paul, vous l'avez persécuté. Ai-je donc plus péché que vous? Venez donc à mon secours. Obtenez-moi le pardon que vous avez obtenu. » Et comme les saints apôtres ne sortaient point de leur tombeau pour venir en personne m'assurer qu'ils intercéderaient en ma faveur, après de nouvelles larmes, je me levai convaincu que je ne me convertirais pas. Mais voilà le triomphe de la raison humaine. Ou du moins, quel service je tirais de ma raison. Elle souffrait bien que je demandasse à tout propos des miracles. Elle ne suffisait pas à me pousser. Là où tout lui disait cependant que ses miracles si désirés s'accompliraient. Et quand nous fûmes sortis du temple, je navrais le cœur de mon pauvre Gustave Olivier, qui augurait bien de ses larmes et de cette longue prière, en lui disant avec sincérité que je m'étais offert à Dieu, mais que Dieu ne voulait pas de moi, et que je ne serais jamais chrétien. Gustave et Adolphe, et cette bonne Élisabeth aussi, étaient à mon sujet remplis d'inquiétude. « Hélas, se disait-il, est-ce qu'il ne profitera pas des grâces de Pâques et de Rome dont le Seigneur se plaît à l'accabler ?» Gustave, bravant l'humeur sombre et taquine où j'étais presque continuellement, cherchait les occasions de me dire une bonne parole. Un jour, et je crois bien que c'était encore ce même mardi de la Semaine Sainte, Adolphe tournait autour de moi, cherchant comme toujours, ou à me distraire, ou à m'éclairer. J'étais assis, je lisais je ne sais quel livre. Toujours, n'était-ce pas le sermon de Bourdaloue? Je lui gardais rancune. Je levais les yeux sur Adolphe. Il était aisé de deviner sa pensée. Et obéissant moi-même à je ne sais quel bon mouvement que m'envoyait Dieu, « Cela vous ferait donc bien plaisir, lui dis-je, Adolphe, si je me convertissais ?» Il ne répondit pas. Mais je vis dans ses yeux une larme. Oh, qu'il soit béni pour cette larme. Oui, soyez bénis tous, mes chers tuteurs, pour l'aide que vous m'avez donnée en ce difficile combat. Soyez bénis de m'avoir tant aimé. Maintenant que je sais comment les chrétiens s'aiment. C'est le récit que je trouve admirable de la conversion de Louis Veuillot. C'est écrit évidemment à la façon de l'époque, à des larmes, etc. Mais c'est très beau, c'est très très beau. C'est Rome qui lui a donné la foi, en est resté profondément romain. Il a combattu le gallicanisme, qui en France est une doctrine, n'est-ce pas, qui conteste au pape sa toute-puissance au bénéfice du roi de l'époque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a même dissous le gallicanisme. C'est un des auteurs les plus importants de son temps. Veuillot s'est toujours voulu fidèlement et activement dans la ligne du pape. Il ne comprend pas d'autre conduite pour un journaliste catholique. Son absolutisme, son intransigeance viennent de là, d'ailleurs. Son amour de l'Église est si jaloux qu'il lui a voulu toutes les puissances pour l'Église, même celles que l'Église délaissait comme ses États. Il a défendu les États du pape, il était un peu aveugle, à mon avis. Journaliste, Veuillot l'a été avec une maîtrise inégalée, une verve toujours chaude, beaucoup de clarté, propriété des mots, la précision, le dépouillement. Faut le lire. Mais rien n'est plus contraire à la légende que fait de Veuillot un insulteur, je vous l'ai dit. N'oubliez jamais ça. Il restait attaché à ses rêves jusqu'à la fin. L'un de ses défauts essentiels aurait été de méconnaître les nécessaires adaptations d'une époque, puis de ne pas croire assez à la vertu des réalisations partielles. Il était trop absolu. C'est un homme extrêmement attachant, qu'on ne peut qu'aimer beaucoup. Il a écrit des choses terribles, un ouvrage en particulier sur les libres penseurs. Il dit, j'appelle libres penseurs, comme ils se nomment eux-mêmes, les lettrés, ou se croyant tels, il est toujours un peu persifleur, les lettrés ou se croyant tels, qui, donc, j'appelle libres penseurs comme ils se nomment eux-mêmes, les lettrés qui, par livre, par discours ou par pratique ordinaire, travaillent sciemment à détruire la religion révélée et sa morale divine. C'est dans son livre « Les libres penseurs », il ne ménage pas les gens qui croient que vraiment il faut rejeter toute forme de christianisme, parce que le christianisme a bâti l'homme, etc. Alors que, à mon avis, je suis bien d'avis de Louis Veuillot, le christianisme grandit l'homme. ouvre son cœur et le fait reconnaître vraiment pour ce qu'il est vraiment, un être humain, c'est-à-dire quelqu'un de créé par Dieu, dans l'amour et fait pour aimer Dieu et répondre justement à cet amour extraordinaire de Dieu pour lui. Le christianisme, c'est ça que le christianisme enseigne.